RFI 16h en temps universel, 17h à Paris.
Charlotte de Rouen.
Mohraf al-Kasra, nommé ministre de la Défense en Syrie dans le gouvernement de transition, c'est un proche du nouvel homme fort du pays, Abou Mohamed al-Joulani. Son portrait dans un instant. L'aide arrive petit à petit à Mayotte, mais face à tant de dévastations, difficile d'imaginer quand la rentrée scolaire pourra avoir lieu sur l'archipel. Aux États-Unis, Donald Trump a nommé Mark Burnett au poste d'émissaire au Royaume-Uni. Cet homme est le producteur de l'émission télé The Apprentice qui a popularisé le milliardaire. Et puis l'intelligence artificielle très gourmande en énergie, c'est ce que révèle une étude américaine. On y revient à la fin de cette édition. Après le ministre des Affaires étrangères, cette nouvelle nomination à un poste clé dans le gouvernement intérimaire syrien, celle du ministre de la Défense, Mohraf al-Kasra, a été choisi par les nouvelles autorités. Ablah Junaidi, cet homme est le commandant en chef de la branche militaire du groupe Ayat Tahrir al-Sham, du nouvel homme fort de Syrie, Abou Mohamed al-Joulani.
C'est le deuxième poste stratégique à tomber dans l'escarcelle d'HTS après les affaires étrangères. Mohraf al-Kasra, c'est l'un des principaux chefs de ce qu'on appelle le département des opérations militaires, dominé par Hayat Tahrir al-Sham, HTS. L'homme de 37 ans, qu'on voit peu dans les médias, était à la tête des opérations qui ont mené à la chute du régime d'Al-Assad il y a 2 semaines. Originaire de la ville de Hama, cet ingénieur agricole de formation a fui après 2011 avec sa famille à Idlib. Là-bas, il a combattu l'armée d'Al-Assad sous le nom de guerre Abu Hassan al-Hamawi, avant d'intégrer le gouvernement du bastion rebelle auprès de son compagnon de route, Abou Mohamed al-Joulani. Sa fidélité récompensée le voilà aujourd'hui à la tête d'un ministère clé. Il sera en charge de l'important dossier de la réforme de l'armée, question hautement sensible pour un pays qui a traversé une décennie de guerre civile. Selon les nouvelles autorités, toutes les factions devraient être fusionnées pour former la nouvelle institution militaire, y compris HTS, reconnaît Mohraf al-Kasra, y compris les groupes armés kurdes qui, à l'heure où l'on parle, sont toujours engagés dans des combats contre les groupes armés syriens liés à la Turquie dans le nord du pays.
Et le nouvel homme fort de la Syrie, Abou Mohamed al-Joulani, promet que son pays n'exercera plus d'ingérence négative au Liban et respectera la souveraineté de son voisin. Il recevait aujourd'hui une délégation conduite par le chef druze libanais Walid Jumblat. Une première rencontre avec un dirigeant de ce pays voisin qui a souffert pendant des décennies de l'ingérence du clan Assad dans les affaires internes du pays. Il a aussi rencontré le chef de la diplomatie turque qui appelle ce soir à la levée des sanctions internationales contre la Syrie dès que possible. Le pape François condamne de nouveau aujourd'hui la cruauté des frappes contre Gaza, message qu'avait déjà fait passer hier le souverain pontife. Les autorités israéliennes avaient réagi, l'accusant d'avoir 2 poids, 2 mesures et d'être déconnecté de la lutte contre le terrorisme. Dans l'enclave palestinienne, 28 personnes sont mortes dans plusieurs frappes israéliennes la nuit dernière. Selon la défense civile palestinienne, un enfant de 4 ans figure parmi les victimes. Il était réfugié avec sa famille dans un des bâtiments d'une école qui abrite plusieurs centaines de déplacés. À Mayotte, environ 250 établissements scolaires ont été dévastés par le cyclone Chido et les écoles qui tiennent toujours debout servent d'abri pour les habitants qui n'ont plus de toit. La rentrée scolaire prévue le 13 janvier paraît donc inenvisageable. Estelle Youssoufa, députée de la première circonscription de Mayotte, avait déjà exhorté les Mahorais de l'Hexagone à accueillir les enfants de leur famille pour leur permettre d'aller à l'école. Une proposition qui laisse Zamzam Zouber mitigée. Cette Mahoraise est installée à Paris depuis 3 ans.
Et cela aussi va demander toute une organisation parce que accueillir des enfants, des gens en métropole avec la vie en métropole, sachant que beaucoup de familles ici n'ont pas vraiment les moyens déjà avec leurs propres gosses. J'imagine même pas accueillir des enfants comme ça et assumer tous ces besoins de ces enfants-là. Donc oui, c'est une très très bonne idée, mais à condition que l'État justement accompagne ces personnes qui recevront ces enfants-là. Parce que sinon, ça aboutira à rien du tout. Si c'est pour délaisser des enfants qui sont déjà traumatisés et qui viennent ici avoir une vie aussi qui sera pas facile pour eux, pour moi, ça sert à strictement à rien.
un témoignage recueilli par Lou Ecal. À Paris, le président Emmanuel Macron et François Bayrou se sont entretenus deux fois. Aujourd'hui, le Premier ministre est en train de procéder au dernier réglage pour la composition de son gouvernement. François Bayrou qui avait annoncé jeudi vouloir présenter son équipe dans le week-end. En Allemagne, l'auteur de l'attentat à la voiture piégée sur un marché de Noël n'aurait-il pas pu être stoppé en amont de son passage à l'acte? Voilà la question que pose Der Spiegel. Le magazine indique que les services secrets saoudiens avaient adressé il y a un an une mise en garde à leurs correspondants allemands au sujet de l'auteur de cette attaque, un médecin saoudien de 50 ans. Dans un de ses tweets, il menaçait l'Allemagne d'un prix à payer pour son traitement des réfugiés saoudiens. Il ne cessait d'accuser Berlin de ne pas assez protéger les Saoudiens qui fuient le royaume pour échapper à un islam rigoriste. Au Royaume-Uni, Donald Trump continue de former son gouvernement. Il vient de nommer Mark Burnett au poste d'émissaire au Royaume-Uni. Mark Burnett n'est autre que le créateur et producteur de l'émission The Apprentice, présentée pendant de longues années par Donald Trump. À New York, Lubna Anaki.
Donald Trump a fait son annonce sur son réseau social Truth Social. Mark Burnett apportera un mélange unique d'expertise diplomatique et de reconnaissance internationale pour ce rôle important, a écrit le président élu. Âgé de 64 ans, Mark Burnett est un ami de longue date du républicain puisqu'il a créé et coproduit l'émission de télé-réalité The Apprentice qui a rendu célèbre Donald Trump avec notamment sa phrase culte « You are fired », vous êtes viré, même s'il était déjà connu. Cette émission a fait entrer Donald Trump dans des millions de foyers américains et construit son image d'homme d'affaires à succès. Mais avec sa longue carrière dans le divertissement, Mark Burnett n'a pas d'expérience en diplomatie et en politique internationale. Sa nomination comme émissaire au Royaume-Uni ne nécessite pas de vote au Sénat et elle s'ajoute à la longue liste de noms venus du milieu des affaires ou du divertissement choisis par Donald Trump, comme l'ancienne patronne du catch américain qui devrait diriger le département de l'éducation ou encore l'ancien joueur de football américain nommé ambassadeur. Lubna Anaki, New York, RFI.
On la savait gourmande en énergie, mais peut-être pas à ce point. L'intelligence artificielle et les centres de données pourraient consommer plus de 10% de l'électricité produite aux États-Unis d'ici 3 ans. C'est ce qu'indique une étude soutenue par le département américain de l'énergie et Simon Rosé. Ce n'est pas sans poser de sérieux défis quant à la robustesse de ce réseau.
L'annonce avait fait du bruit en septembre dernier. Microsoft déclarait vouloir relancer la centrale nucléaire de Three Mile Island, fermée depuis 5 ans. L'objectif, assurer les besoins en électricité des centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle. Un exemple de la quantité toujours plus colossale d'énergie que réclame cette technologie. Et ce n'est que le début, ces besoins vont tripler d'ici 2028. Selon cette étude, le secteur consommera alors 12% de l'électricité produite aux États-Unis. Il faudra que les moyens de production suivent, d'autant plus que la demande est également croissante dans d'autres domaines à mesure que le pays s'électrifie, notamment dans les transports et le bâtiment, afin de décarboner l'économie. Pour répondre à cet enjeu, les auteurs de ce travail proposent plusieurs pistes, allant de l'installation de batteries longue durée sur les sites des centres de données jusqu'à la mise en place de mini-réacteurs nucléaires, même si cette technologie n'est pas encore mature et cherche encore son modèle économique. Enfin, autre option envisagée, travailler sur l'efficacité énergétique de ces centres pour les rendre moins gourmand.
Simon Rosé, en Colombie, le LN annonce une trêve pour les fêtes de fin d'année. La guérilla, qui a repris en novembre les négociations de paix avec le gouvernement, a annoncé un cessez-le-feu unilatéral, donc pour les fêtes du 23 décembre au 3 janvier. Sur le réseau social X, le président Gustavo Petro a réagi à cette annonce en indiquant que la fin de la guerre est l'objectif national pour l'année prochaine, pour 2025. Un mot de sport. Le nageur français Léon Marchand finit l'année 2024 par une ultime victoire. Le quadruple médaillé d'or olympique largement favori remporte le 100 mètres brasse au pitting de natation de l'océan Indien à Saint-Denis de la Réunion. Il avait déjà gagné hier le 200 mètres brasse, vendredi pardon, et hier le 50 mètres brasse. Se disant épuisé, Léon Marchand avait renoncé en fin novembre aux mondiaux en petit bassin qui étaient organisés à Budapest. Le français de 22 ans a confirmé qu'il passerait la période des fêtes de fin d'année chez lui à Toulouse avant de s'envoler pour l'Australie pour 2 à 3 mois au cours desquels il prévoit de s'entraîner avec un nouveau coach.